Oui, mais elle trouve son aliment aussi dans une histoire de Bahreïn qui est assez particulière si on la compare aux autres émirats. C'est un des émirats qui a connu depuis les années 60 une importante contestation politique. Il y avait un moment dans les années 70 encore un parlement élu, des forces d'opposition, en général de gauche, nationalistes arabes ou communistes. Il y a une tradition politique qu'il n'y a pas, par exemple, dans les Émirats arabes unis ou au Qatar. Ça tient notamment au fait que la majorité de la population est chiite, alors que la dynastie régnante est sunnite. Dans les années 90, il y a eu une intifada dans cette population chiite qui maintenant est essentiellement mobilisée par des organisations confessionnelles, qui a duré des mois et des mois, qui a été très sévèrement réprimée et qui a abouti au début des années 2000 à une réforme politique. C'est-à-dire le roi a levé les mesures d'expulsion d'un certain nombre de dirigeants, il a permis des élections relativement libres, les exilés ont pu rentrer, il y a eu un début de dialogue. Donc c'est quand même dans toute cette histoire que le mouvement à Bahreïn trouve sa source, même si évidemment il a été encouragé par les événements du Caire.
Quelles sont les revendications des manifestants ?
Les revendications évoluent. Au départ, il semble que c'était des revendications d'ouverture du système politique. C'est quand même un système politique où il y a des élections, mais où l'opposition peut avoir 18 sièges, je crois, sur 40, mais pas plus. C'est une monarchie dans laquelle les sunnites sont privilégiés par rapport aux chiites. C'est une des rares monarchies du Golfe qui octroie facilement la nationalité à des Jordaniens, à des Palestiniens du moment qu'ils sont sunnites. Donc il y a une discrimination confessionnelle et une discrimination sociale puisque les chiites représentent la partie la plus pauvre de la population. Mais au départ, donc, c'était des revendications d'ouverture du système politique et ça ne s'attaquait pas au roi. Là, il semble qu'avec la répression, on est passé à un nouveau stade avec des revendications qui appellent ouvertement à la chute de la dynastie Khalifa qui est au pouvoir là-bas.
Et donc face à ce mouvement de contestation, la réponse du pouvoir en place est uniquement la violence ou bien il peut faire des ouvertures politiques ?
Là aussi, on a eu une évolution puisque, bon, d'abord, il y a eu des manifestations violentes avec deux morts et ensuite, on a vu le roi et le ministre de l'Intérieur s'excuser. On a eu l'impression qu'on allait laisser les manifestants manifester. Donc ils ont pu occuper la place qu'ils ont nommée Place El Tahrir. Là, il semble que le roi ait pris les décisions d'en finir avec la force. Il faut noter quand même un élément très important dans toute cette équation, c'est que Bahreïn est le siège du quartier général de la 5e flotte américaine, que les Américains ont décidé l'année dernière de moderniser ce centre avec 500 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Donc il y a une dimension géopolitique très importante. Et puis le fait que la population soit chiite, regarde parfois vers l'Iran, est aussi un élément qu'il faut prendre en compte.
Vous parlez des Américains. Quelle est la position de l'Arabie Saoudite ?
Bahreïn, c'est une île, mais qui est reliée à l'Arabie Saoudite par un énorme pont. Le gouvernement saoudien a toujours soutenu la monarchie. Ils sont très inquiets par ce qui se passe là-bas, dans la mesure où ils pourraient intervenir, je pense qu'ils le feront aux côtés de la monarchie. D'autant que, comme vous savez, les monarchies du Golfe sont assez perturbées par la position américaine. Les États-Unis ont laissé tomber Moubarak. Et même si le cas de Bahreïn est très différent à cause du siège de la 5e flotte américaine, je pense que les Saoudiens doivent étudier leurs options et ne pas exclure une éventuelle intervention.
Est-ce qu'une déstabilisation du Bahreïn pourrait avoir un effet domino dans les monarchies du Golfe ?
Pas vraiment, parce que les autres monarchies, le Koweït, les Émirats arabes unis et le Qatar, n'ont pas du tout le même type de problème. Bahreïn est aussi, il faut le rappeler, un émirat relativement pauvre. Il n'y a pas de pétrole, c'est essentiellement une place financière, donc ils ont beaucoup moins de moyens. Et puis, Bahreïn est un pays qui vit par sa population où il y a relativement peu d'émigrés. Donc c'est une situation différente. La seule conséquence que ça aurait, c'est sur l'Arabie saoudite, puisque toute la province est de l'Arabie saoudite, qui est en face, si je peux dire, de Bahreïn, est peuplée de chiites. C'est la région pétrolière et que les Saoudiens peuvent s'inquiéter que cette contestation chiite ait des effets chez eux. Il faut rappeler qu'en 1979, il y avait eu une espèce d'intifada des chiites saoudiens après la révolution iranienne.